Bonjour et merci d'écouter et de regarder Questions Politiques, le rendez-vous du week-end de France Inter, du journal Le Monde et de France Info. Jour d'élection et nous sommes donc soumis au silence électoral, interdiction de donner le moindre écho à la propagande électorale, interdiction de vous parler des sondages. Mais nous avons toute liberté de suivre les conseils du stratège de Bill Clinton pendant la présidentielle de 92. It's the economy, stupid, c'est l'économie, crétin, et on oublie souvent ce mot d'ordre qui était précédé d'un autre, le changement ou le statu quo. Alors si on se projetait vers le monde de demain, celui de l'après-Covid, celui où nous serons enfin libérés de la pandémie, mais comment savoir quelles tendances de fond resteront de celles qu'a révélé, qu'a accéléré la crise sanitaire? On va parler d'inégalité, de relocalisation, de réindustrialisation, de numérisation, quelles conséquences aussi sur la mondialisation, de nombreux sujets au sommaire, avec deux invités, tous les deux lauréats 2020 et 2021 du prix du meilleur jeune économiste décerné chaque année par le journal Le Monde et le Cercle des économistes. Isabelle Méjean, elle est professeure à l'école polytechnique, spécialiste des questions de commerce international et des effets de la mondialisation et des échanges. Et Xavier Jaravel, il a 30 ans, professeur à la LSI, la London School of Economics, spécialiste des questions liées à l'innovation et aux inégalités. De la dette aussi, il sera question. Alors pour intervenir, le hashtag #QuestionPol ou l'application mobile France Inter.
France Inter. Question politique. Ali Badou.
Isabelle Méjean, Xavier Jaravel. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et bienvenue. Pour vous interroger, l'équipe de questions politiques, Nathalie Saint-Cricq de France Télévisions. Bonjour Nathalie.
Bonjour à tous.
Françoise Fressoz du journal Le Monde. Bonjour Françoise.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
Et Karine Bécard de France Inter. Bonjour Karine.
Salut tout le monde.
En quelques mots, si vous deviez nous décrire vos travaux, l'essentiel de vos recherches, on va commencer avec vous, Isabelle Méjean.
Donc je travaille sur des questions d'économie internationale, je suis une spécialiste de commerce international et plus spécifiquement je travaille sur la manière dont les entreprises participent au commerce international et les conséquences que ça peut avoir du point de vue agrégé. Donc c'est ce qu'on appelle la micro de la macro sur les questions d'économie internationale.
Vous avez vu le monde changer ces derniers mois, cette dernière année et demie ?
Tout le monde a vu le monde changer, a fait face à un choc sur la perception du risque, en tout cas très important. Après, sur les questions d'économie internationale, il y a eu un choc énorme. C'est un blocage quasi complet du commerce international et aujourd'hui, les leçons qu'on peut en tirer, qui sont peut-être une plutôt bonne surprise dans la manière dont le commerce international a résisté envers et contre tous. Disons.
Et on va en parler. Xavier Jaravel, même question.
Bonjour à toutes et à tous et merci pour votre invitation. Alors même question, moi mes travaux en fait sont assez proches de ceux d'Isabelle. D'ailleurs j'ai eu le plaisir et l'honneur de travailler avec Isabelle sur des questions de relocalisation, stratégie, de souveraineté, de résilience. Et plus généralement mes travaux c'est à l'intersection de la micro et de la macro, c'est-à-dire prendre des données micro très détaillées, le big data, et utiliser ça pour un peu renouveler la réflexion, les diagnostics, les propositions sur des grosses questions macro. Commerce international, mais aussi innovation.
Exemple, par exemple, de ces data que vous utilisez.
Par exemple, des
données. Donc, mais les données, en général, on en parle dans l'informatique, dans la numérisation, comme nos données personnelles. Mais il y a aussi les données des entreprises.
Voilà, par exemple, les données des entreprises sur le commerce international, les importations. Pour chaque entreprise, on peut les voir grâce aux données des douanes et ensuite faire un diagnostic fin sur les vulnérabilités. Où est-ce qu'elles existent et comment y remédier?
Première question, on va démarrer avec cette question toute simple. Est-ce qu'on a basculé dans le monde de l'après-demain? Je ne parle pas du monde de demain, celui où on reprend les habitudes d'hier, celui où on reprend même parfois les mauvaises habitudes d'hier, mais celui d'après-demain, c'est-à-dire véritablement sommes-nous face à un Big Bang, ou voyez-vous un retour aux fondamentaux? Isabelle Méjean.
Ce qui est certain, c'est que donc là, on sort de la période de gestion de la crise, de l'économie de guerre, disons, de la crise pandémique. Et puis, il y a des choses qui ont changé sans doute définitivement. Encore une fois, je pense que la manière dont on perçoit les risques, et notamment les risques sanitaires, ça a évolué de manière permanente. Ensuite, est-ce que le monde va changer complètement? Ça dépend beaucoup de choix politiques. Je sais qu'on ne parle pas de politique, mais en termes de politique économique,
on a n'a pas le droit de parler de politique nationale, on a le droit de parler de politique avec un P majuscule.
En termes de politique économique, il y a des choix qui sont devant nous, qui sont importants, qui peuvent faire changer le monde, et j'espère qu'ils vont faire changer le monde. Mais je dirais pas que c'est fait. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans la période où effectivement, on doit se projeter beaucoup plus loin que ce qu'on a été, s'est projeté pour l'instant. Et donc, c'est maintenant qu'il faut faire des choix qui vont être difficiles et coûteux pour tout le monde.
Xavier Jaravel.
Écoutez, moi, ce qui me frappe, c'est que dans ce débat, en fait, sur le monde d'après, il y a un peu toujours des sortes de biais de confirmation qu'on observe chez les uns et les autres. Donc, chacun voit un peu midi à sa porte et cette crise comme une opportunité pour pousser un agenda qui était déjà un peu là avant. Et donc, c'est à la fois un Big Bang et un retour aux fondamentaux. Moi, il me semble que sur le plan...
Comment est-ce que ça peut être l'un et l'autre?
Parce que c'est une opportunité précisément pour pousser un agenda différent. Et pour certains, ce sera la décroissance. Pour d'autres, ce sera la croissance verte. Il y a aussi des opinions très différentes sur la manière de gérer la dette publique. Et donc, voilà, c'est un peu un moment de choix. C'est-à-dire ça, la crise, c'est le moment où on fait les choix. Et donc, juste, moi, je dirais concrètement, ce qui a vraiment changé, c'est l'ampleur du choc, qui est vraiment sans précédent. Et du coup, après, on va être dans une phase de reprise très longue, plus longue que tout ce qu'on a connu jusqu'ici. Ça va être probablement jusqu'en 2025. Et aussi le choc sur les finances publiques qui est sans précédent. Donc je mettrai ces deux points-là en avant. Et à partir de ça, voilà, il y a plein de choses à faire, comme le disait Isabelle, sur le plan de relance. Et on y viendra.
On va y parler évidemment, Françoise Fraisseuse.
La première question au fond qui vient à l'esprit, c'est ce qui s'est passé pendant la pandémie et toute cette interrogation sur des masques qui manquaient, qu'on n'était plus capable de produire. Donc, est-ce qu'on va vers une relocalisation de certaines productions? Est-ce qu'il faut réindustrialiser le pays? Comment vous positionnez par rapport à ces grands enjeux?
Isabelle Méjean.
Je pense que c'est des questions nouvelles qui sont apparues, qui sont apparues dans les débats publics, qui sont pas forcément nouvelles. Les questions de désindustrialisation, c'est des questions qui sont très largement discutées depuis de nombreuses années. Le diagnostic a été fait depuis bien longtemps, on sait, et on commence à comprendre, disons, quelles sont les sources de cette désindustrialisation. Donc finalement, c'est des débats nouveaux, pas forcément, disons, dans les milieux économiques. Je pense que c'est important aussi de rappeler que il y a des choses qui sont très spectaculaires, mais qui doivent pas complètement, tirer nos choix politiques. La question des masques, c'est un bon exemple, je pense, parce que ça a été très caractéristique. On est resté en confinement parce qu'on n'était pas capable d'avoir des masques en France. On est sorti du confinement parce qu'on a réussi très rapidement à s'approvisionner en masques. Et si vous regardez les chiffres du commerce extérieur, ce que j'ai fait, c'est très impressionnant. Vous regardez la catégorie des masques. En avril-mai, on a importé massivement des masques de Chine. Et c'est finalement ça qui nous aide à sortir du confinement. Donc c'est un problème qui a été très spectaculaire. Et finalement, ce qui me marque, moi, je l'ai déjà dit, c'est que c'est un problème qui s'est réglé très rapidement. Si on regarde par rapport à l'ampleur du choc, c'est très impressionnant de voir avec quelle rapidité on a réussi finalement dans une économie de guerre à s'approvisionner en masques, avec quelle vitesse on a réussi à produire des vaccins. Encore une fois, on ne produit pas des vaccins comme ça
en cause le mécanisme qui a conduit au fait qu'on en a manqué à une certaine période. D'abord, comment on explique ça? Ce qui paraît complètement fou.
Ce qui paraît un peu fou, c'est que c'est toujours difficile, et je pense qu'il faut éviter d'être très critique, parce que c'est toujours difficile d'anticiper un risque extrême. Hein, par définition, un risque qui a une probabilité très très faible d'arriver, c'est difficile à préparer. Donc il y a des spécialistes de la gestion du risque et des risques extrêmes. On sait qu'en l'occurrence, sans doute, on se serait mieux porté si on avait eu plus de stocks stratégiques sur ce type de biens. Il se trouve qu'on n'en avait pas beaucoup au début de la pandémie. C'est un peu pas de chance, mais je ne suis pas certaine que ça remette complètement en cause le système. Donc moi, personnellement, je ne suis pas du tout à dire qu'il faut se mettre à produire des masques en France, typiquement, parce que ce qu'on a vu, et c'était assez anticipable quand on connaît bien les données, c'est que évidemment, on ne va pas se mettre comme ça du jour au lendemain à produire des tonnes de masques. C'est compliqué. Même un masque, c'est un processus productif qui est compliqué à mettre en place.
Mais donc, c'est un faux débat, la souveraineté économique, dont on nous rebat les oreilles depuis 15 mois. C'est un vrai débat. Il en faut une.
C'est un débat qui existe. Moi, je ne vais pas commencer à décider quels sont les faux et les vrais débats. Disons que dans ce débat, je pense que c'est important de rappeler que, en l'occurrence, par exemple, sur la question des masques, ce qui nous a sauvés et ce qui nous a permis très rapidement d'avoir beaucoup de masques.
C'est la Chine.
c'est le commerce international, oui. C'est la Chine. Ça, c'est un fait, c'est pas les masques qu'on a produits en
pour
France.
Pour reprendre la question de Karine,
Nathalie.
Celle, d'une certaine manière celle de Françoise, on a entendu qu'il faudrait retrouver notre souveraineté. On n'a pas parlé que des masques. On a parlé d'un certain nombre de molécules dans les médicaments, que tout d'un coup, on pouvait être en panique absolue sur un certain nombre de choses, ou
le curare.
De curare, notamment. Ça, c'était au moment du Covid. Et on nous a dit, plus jamais ça, on fera différemment. Est-ce que vous considérez qu'il y a une forme de commerce international heureux et de mondialisation heureuse qui fera que finalement, si, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on peut bien échanger avec la Chine, les choses s'arrangeront, ou que il y a effectivement un certain nombre de choses à relocaliser en France de manière à être relativement autonome et relativement préservé d'une crise qui peut arriver. En gros, est-ce que vous croyez à cette souveraineté retrouvée, même si elle est sur simplement certains domaines ?
Xavier Jaravel.
Oui, non, exactement. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a d'abord le diagnostic. Et donc, nous, ce qu'on a fait justement avec Isabelle, c'est de regarder ces données micro des entreprises pour voir où étaient les sources de dépendance à l'étranger, où étaient les risques. Et donc, quelle est l'ampleur du problème ? Est-ce que c'est un problème tout à fait anecdotique ou est-ce qu'il est quand même d'ampleur importante ? Et donc, ce qu'on trouve, c'est qu'il y a 4% des importations en France qui sont de l'ordre du vulnérable avec la définition qu'on retient, c'est-à-dire qu'il y a très peu de producteurs étrangers qui sont responsables de cette production. Ça peut être les principes actifs de médicaments en provenance de Chine, comme le paracétamol, beaucoup d'autres choses. Et ce qui est important, c'est de vraiment faire ce diagnostic très fin, parce que, par exemple, en chimie, pharmacie, la balance commerciale de la France, elle est positive. Donc, c'est un secteur qui, globalement, se porte bien. Et pourtant, c'est dans ce même secteur qu'on a le plus de sources de vulnérabilité.
C'est-à-dire oui, c'est paradoxal, parce que quand on regarde la balance commerciale de la France, elle est dramatiquement déficitaire depuis des décennies. Donc, on se dit que la France est très dépendante, et même sur un secteur comme celui-là.
En chimie, pharmacie, en fait, c'est mieux qu'ailleurs, globalement. Mais à l'intérieur, c'est là qu'en fait, on a le plus de sources de vulnérabilité. Ce qui montre bien l'importance de ce travail lent de diagnostic, et puis en fait, n'est pas si lent, qu'on a fait en moins d'un an, et aussi poussé par ce débat. Et donc, le diagnostic, c'est un sujet. Il y a un débat, mais c'est un sujet qui est relativement circonscrit, qu'on peut aborder, mais qu'il faut aborder dans le temps et porter sur la durée. Donc, c'est-à-dire que si dans 2 ans, on a une autre crise qui chasse ce débat-là, il faudra quand même continuer à faire ce travail, parce que c'est dans la durée, à horizon 5-10 ans, qu'on peut remonter la pente. Et il y a plein d'outils à utiliser, donc là, au plan des propositions qui font suite au diagnostic. Il y a des relocalisations dans certains cas, quand on peut produire de manière compétitive, donc pérenne, mais il y a aussi la question du stockage, des alliances avec nos partenaires européens qui n'ont pas tous les mêmes sources de vulnérabilité. Et donc, c'est nous cette approche-là qu'on propose. C'est-à-dire, c'est un chemin de crête qui est basé sur le diagnostic. Et donc, 4%, c'est pas la fin du monde, mais c'est pas du tout anecdotique. Un exemple, c'est les semi-conducteurs. Hein, vous avez vu la crise récemment.
C'est dramatique pour le coup.
C'est un poste de coût, le semi-conducteur, qui est faible dans le coût total de production d'une automobile.
D'une voiture.
Mais si on perd ça, ça peut mettre toute une filière à bas. Et donc, il faut bien voir que...
Et dont on est largement dépendant aujourd'hui de la Chine pour les semi-conducteurs.
On est dépendant notamment de Taïwan pour les semi-conducteurs de dernière génération, mais c'est un peu plus subtil. C'est-à-dire que, par exemple, les Pays-Bas vont faire les machines qui sont nécessaires pour les semi-conducteurs de dernière génération. Donc, il y a cette dépendance mutuelle. Et donc, voilà, il faut apporter ça.
Et pourquoi on l'a pas fait avant? Excusez-moi, il y a un truc qui semble aberrant. Mm-hmm. C'est que là, vous êtes capable, vous, en 12 secondes de nous dire, il nous manque ça. C'est 4%, les semi-conducteurs. Pourquoi, pendant les 20 dernières années, on s'est pas dit, si on ne produit plus ça, si on laisse passer ça à l'étranger, on risque d'avoir des filières entières qui se cassent la figure, voire d'être dans un état de dépendance totale, et c'est plus la théorie des avantages comparatifs, telle qu'elle était, merveilleusement vue.
Qui est vraiment, Isabelle Méjean?
Ouais, je pense que là, il y a encore une fois une modification de notre perception des risques. Donc, très clairement, enfin, c'est assez simple comme débat, au sens où il y a des bénéfices très importants à cette concentration, cette augmentation des vulnérabilités. Elle est d'une part inhérente à la mondialisation, et elle résulte aussi du fait que pendant très longtemps, il y a eu une concurrence internationale très forte qui pousse les entreprises à vraiment optimiser leur chaîne de valeur. Et la manière ultime, la meilleure manière de profiter des avantages comparatifs, c'est ce qui se fait dans les chaînes de valeur internationales, c'est-à-dire de concentrer beaucoup la production dans une seule entreprise qui va faire beaucoup d'économies d'échelle, donc qui va produire moins cher en produisant sur des gros volumes.
Ça, c'est le modèle chinois, l'usine du monde.
C'est le modèle, c'est pas que le modèle chinois, c'est par exemple,
enfin,
il y a des
secteurs,
la pharmacie, les principes actifs de chimie
en
qui sont
Inde.
Utilisés dans la pharmacie, c'est des biens qui sont produits beaucoup moins cher à grande échelle et de manière plus sûre. C'est pas très bon de multiplier des sites de production parce qu'on produit de manière qui est plus moins sûr. Et donc du coup, il y a eu une poursuite de une course à la baisse des coûts, hein, qui est liée à la concurrence internationale, qui est utile, qui permet aux consommateurs de payer moins cher, mais qui a des conséquences en termes de vulnérabilité. Donc je pense que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on revoit un peu l'équilibre entre les coûts et les vulnérabilités, parce que on a eu un choc qui a mis en avant beaucoup les coûts associés à la vulnérabilité. Donc la question, c'est est-ce que cet état d'esprit restera ? Sans doute, c'est une bonne chose, hein, qu'il y ait ces débats, mais il faut toujours rappeler, hein, qu'il y a, cette souveraineté économique, elle est extrêmement coûteuse. Donc c'est aussi pour ça qu'on insiste beaucoup sur un diagnostic fin, c'est que si on n'a pas ce diagnostic fin, on va dépenser beaucoup d'argent public, on va perdre beaucoup en termes de on va avoir des coûts en termes de pouvoir d'achat important pour une efficacité qui sera faible. Pour avoir une vraie efficacité, il faut vraiment cibler très finement, et c'est ce ciblage-là qui sur lequel on a travaillé.
François Fressoza.
Je rebondis sur ce que vous dites, où au fond on a privilégié jusqu'à présent la baisse des coûts, mais aussi une hausse du pouvoir d'achat, pas parce que les produits ne coûtaient pas trop cher. Et le monde qui se dessine demain, c'est ce que vous dites, c'est peut-être un peu plus cher. On voit aussi les pressions, les tensions sur l'énergie propre, les tensions sur le logement, où il va y avoir des adaptations écologiques. Au fond, tout va coûter un peu plus cher. Est-ce qu'on est bien préparé à rentrer dans ce monde où, au fond, il faudra habitué à payer plus cher, et qui va payer la note au bout du compte ?
Xavier Jaravel.
Enfin, je pense sur ce plan-là, il n'y a pas de fatalité à payer plus cher, il y a des choix à faire et qui doivent être portés dans la durée pour justement porter leurs effets. Donc vous évoquez les technologies liées à l'énergie verte, la France a des forces en la matière, la question du nucléaire, il y a l'importance de pouvoir produire l'énergie décarbonée, l'électricité décarbonée, et la France peut jouer un rôle important au niveau mondial sur ces technologies-là. Et donc le plan de relance, avec tous les crédits notamment qui sont alloués à ces questions-là de transition énergétique, c'est précisément l'opportunité pour se préparer. Donc je pense qu'il n'y a pas de fatalité. Au contraire, le plan de relance est là pour précisément préparer l'avenir.
Est-ce qu'il vous semble bien ajusté, le plan de relance ? Autrement dit, est-ce qu'il est ciblé sur la préparation du monde d'après qui va être en transition écologique très importante ?
Parce qu'il est bien ciblé à un niveau très macro, c'est-à-dire à priorité transition écologique. Mais après, il y a la question du ciblage très fin, et donc c'est notamment relié aux questions de résilience et de dépendance dont on parlait à l'instant. Avec Isabelle, on pense qu'on pourrait bien affiner en fait les appels à projets du plan de relance pour qu'ils soient focalisés très précisément sur les produits qui sont en situation de dépendance. Et ça, actuellement, c'est pas fait. C'est des secteurs plus larges qui sont couverts par les appels à projets. Donc, on dirait qu'il y a peut-être pour second plan de relance ou d'autres vagues du plan de relance, il y a une opportunité là pour cibler encore plus les efforts.
Karine Becker.
Alors, on parle du plan de relance, de la reprise, ce redémarrage économique qu'on observe en ce moment déjà, qui est très actif, très fort, beaucoup plus fort que ce qu'on pouvait imaginer. Il est lié évidemment à l'amélioration de la situation sanitaire. Est-ce qu'il est durable, ce redémarrage très fort auquel on assiste en ce moment ?
Qui va répondre ?
Durable au sens de durée, hein, pas encore d'écologie qu'on va aborder effectivement ces questions-là, mais ouais. Est-ce que ça va durer dans le temps, en fait, ce redémarrage très fort auquel on assiste aujourd'hui ?
Ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que la phase de reprise sera longue et forte, précisément parce que la chute était dure. Et donc,
vous disiez jusqu'en 2025 tout à l'heure.
Voilà, 2020, c'est les projections qu'on fait. Vous regardez l'INSEE, le Trésor, la Banque de France, tous les instituts qui font référence. On va être une croissance élevée, d'abord 5%, puis 4%, puis 3%, puis 2%, et puis revenir à nos niveaux habituels seulement en 2025. Et donc ce qu'il faut savoir faire, c'est le chemin de crête entre bien accompagner cette reprise et en même temps penser à l'après, être vigilant sur les dépenses pérennes, la question de la dette publique en arrière-fond. Et donc, on a plein d'outils pour faire ça. Et donc, il me semble que c'est ça l'enjeu. C'est de trouver...
Mais pourquoi ce redémarrage français est plus fort que dans les autres pays européens ? Pourquoi, effectivement, vous parliez de croissance ? On est cette année, nous, sur 2021, sur un taux de croissance probable envisagé de 5 à 6%. Pourquoi est-ce que dans les autres pays européens, c'est moins, par exemple ? Pourquoi nous, c'est plus fort ?
Ça vous fait sourire, Isabelle Béjean.
Mais c'est aussi lié à la structure de l'économie française qui a été particulièrement affectée. Vous voyez, pensez à l'aéronautique, au tourisme, et donc à nouveau chute forte, reprise. Donc, je pense qu'il faut pas non plus trop se fier aux chiffres qui peuvent bouger pas mal d'un trimestre à l'autre. Il y a les confinements, reconfinements qui ont pesé sur la reprise en début d'année. Donc, il faut plutôt regarder horizon 5-10 ans et surtout ne pas rester concentré sur les grands enjeux que la crise a mis au goût du jour. Cette question de résilience qui avant était moins au centre du débat et que maintenant on a une opportunité de traiter.
Isabelle Méjean.
Je pense que sur ces questions, c'est aussi important de se rappeler comment on est rentré dans la crise, hein, puisqu'on est rentré dans la crise économique en Europe avec une situation qui était déjà assez déprimée, dans un régime de croissance qui était assez faible. Donc il y a aussi une question, c'est de savoir si on revient à ce régime de croissance faible, avec très peu d'inflation, très peu de croissance, ou est-ce qu'on profite aussi de ce moment un peu de changement structurel pour essayer de ressortir de la crise avec plus de croissance. Et donc ça, je pense que pour le coup, c'est quelque chose qu'on voit pas trop pour l'instant. Hein. On a discuté un peu de est-ce que le plan de relance est bien ciblé, disons. Il y a aussi la question de l'enveloppe. Et l'enveloppe, c'est vrai que si on regarde en tout cas par rapport aux États-Unis, elle reste très modeste. Et donc c'est une enveloppe qui va nous permettre potentiellement qui a servi à soutenir les ménages pendant une période très difficile.
Et
et donc soutenir l'emploi aussi. Hein. C'est tout le monde a profité très largement de cet argent public. Par contre, ce que ce plan de relance ne fait pas, si on compare par exemple avec le plan Biden, c'est faire plus pour sortir durablement la zone euro d'une situation de régime de faible croissance qui était celui qu'on avait avant la crise pandémique.
Quand on voit l'argent injecté, quand on voit les États, les banques centrales qui ont pris les manettes de l'économie pendant des mois et des mois, le secteur privé s'est réfugié dans les bras des États et partout dans le monde pour réclamer de l'aide. On a rompu avec les règles du capitalisme classique de manière radicale. Est-ce qu'on a changé le cours de la nature? Je vous pose la question de manière ouverte, ça vous fait sourire Xavier Jaravel, mais c'est vrai que est-ce qu'on a vu là quelque chose comme le capitalisme changer?
Moi je vous dirais très clairement non, c'est-à-dire non. Que c'est une réponse très forte à une crise exceptionnelle. Donc à crise exceptionnelle, réponse exceptionnelle, mais c'est...
Mais la nature du darwinisme, c'est la nature du capitalisme, c'est le darwinisme, c'est-à-dire une entreprise affaiblie doit pouvoir disparaître. Là, pour le coup, on les a maintenus en vie.
Dans les périodes de crise, il est normal que l'État intervienne. Et donc, à nouveau, vous m'auriez posé la question où nos confrères, il y a 5 ans, avec une crise de cette ampleur, tout le monde vous aurait dit oui, il y aurait une réponse de cette ampleur-là. Donc, c'est exceptionnel, mais c'est pas inattendu. Je pense que c'est vraiment important de le comprendre parce que. C'est difficile ensuite d'expliquer pourquoi est-ce que, par exemple, la maîtrise des finances publiques est une chose importante si on peut se permettre de dépenser 300 milliards. C'est juste que si vous prenez une crise de 10%
pour le courage pour le faire.
PIB, non, mais c'est très simple. C'est une réponse exceptionnelle à une crise exceptionnelle, mais qui n'est pas inattendue. Voilà.
Juste un petit passage, on a parlé de la croissance espérée élevée. Le Conseil d'État a justement cassé la décision sur l'assurance chômage et les modifications des règles de l'assurance chômage en considérant mais finalement que le gouvernement était très optimiste sur ses perspectives et qu'il fallait les repousser parce qu'il voyait les choses de façon moins joyeuse pour parler communément. Est-ce que vous considérez que c'est l'occasion éventuellement de réformer l'assurance chômage ou de réformer le monde du travail à l'occasion de cette relance qui est finalement assez inattendue?
Isabelle Méjean.
Moi, j'ai pas beaucoup de c'est une enfin donc disons la réforme de l'assurance chômage, c'était quelque chose qui était préexistant à la crise. Donc il y a une question de savoir bon ça a été repoussé, maintenant la question c'est de savoir quand il faut la faire. Je pense que c'est assez orthogonal hein au plan de relance globalement, c'est des questions qui me semblent en tout cas, je sais pas si Xavier était d'accord avec ça, qui me semblent assez orthogonales.
Et ça relève de la décision politique, donc n'allons pas trop loin non plus dans cette optique-là puisque oui, nous sommes soumis au silence électoral. Des politiques publiques, donc vous avez été habile pour répondre, Isabelle Méjean, sans vous faire taper sur les doigts.
Est-ce que c'est moment de reprise, de relance? Est-ce que malgré tout, c'est le bon moment pour effectivement engager des réformes? Alors on va pas s'enfoncer.
Alors oui, non, on va. Non mais ne rentrons pas trop s'approcher de la ligne.
Alors voilà, ne parlons pas des réformes qu'il faut faire, mais est-ce que c'est un bon moment effectivement d'appuyer sur.
Moi je pense que là on sort de l'économie de guerre et il faut revenir à un régime normal où on fait des réformes et il y a plein de réformes devant nous. Il y a notamment toutes celles qui concernent le plan de relance hein, qui s'accompagne de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choix politiques à faire. Et
il y a des choix politiques dont nous n'allons pas en parler. Parlons du marché, parlons des acteurs privés pour le coup. Comment expliquez-vous qu'au cours de cette crise qui est l'une des plus violentes qu'on ait connues au cours de ce dernier siècle, comment se fait-il que les bourses soient aussi hauts? Comment se fait-il que les valeurs boursières, partout dans le monde, se portent bien et même extrêmement bien?
Grâce au, comme vous le disiez tout à l'heure, la réponse très forte des États, les prêts garantis par l'État, le soutien de la Banque Centrale Européenne, et donc qui ont permis de traverser la crise. Et la question, c'est de savoir si on va bien négocier maintenant la nouvelle phase, qui est un retrait progressif de ces aides, pour que les faillites n'augmentent
pas. Mais je parle moins de ce qui
vite.
Se passe en France d'ailleurs, oui, qu'à l'étranger. Regardons par exemple la bourse de New York, regardons la bourse d'Amsterdam par exemple.
Non, mais là, il y a des plans de relance, notamment aux États-Unis. Il y a quand même un plan de relance qui va couvrir à peu près 13% du PIB. Donc, il va y avoir beaucoup d'argent qui va être dépensé. Et c'est pas illogique que les marchés anticipent que ça fournira de l'activité.
Non, parce que quand on pense à la crise de 29, on se souvient justement de l'effondrement des valeurs. Et on se dit que quand il y a une crise éclate, généralement, la bulle financière éclate. Or, ça, on ne l'a pas vu au cours de cette crise.
Ouais. Mais précisément, la crise de 29, il n'y a pas eu de réponse de l'État. Voilà. Et par ailleurs, il y a aussi beaucoup de différences entre secteurs. C'est-à-dire que le secteur de la tech se porte plutôt bien, voire très bien aujourd'hui. Et les valeurs boursières reflètent cela en grande partie. La bourse n'est pas représentative de l'économie dans son ensemble.
François Fressoza.
Sur les enjeux de l'avenir, tout le monde parle en tête l'urgence climatique. Est-ce que vous pourriez décrire une société française qui se serait adaptée correctement à l'urgence climatique? C'est quoi les ressorts? Comment elle fonctionne?
Donc les ressorts, il y a tout le ressort qui est lié aux transformations technologiques. Donc il faut, pour opérer cette transition écologique, il va falloir de l'innovation verte de manière massive. Donc c'est là-dessus qu'on doit investir de manière massive, parce que aujourd'hui, il n'y a pas de certitude sur quelles seront les technologies qui vont sortir gagnantes. Donc aujourd'hui, il y a besoin de dépenser beaucoup d'argent dans beaucoup de projets qui sont très risqués.
Et est-ce qu'on est bien positionné là-dessus?
Est-ce qu'on est bien positionné là-dessus? Le plan de relance l'Europe a choisi d'utiliser une partie conséquente du plan de relance pour faire de l'investissement et de la transition écologique, avec un ciblage sur la recherche et développement très important. Donc voilà, ça c'est un choix qui a été fait. Donc il y a le premier axe, c'est l'axe innovation verte. Il y a un deuxième axe qui est très important, c'est le changement dans les modes de consommation. Et c'est là-dessus que je pense que les économistes, on est à peu près unanimes, et d'ailleurs le rapport Blanchard-Tirole l'a remis en avant, on est unanimes sur le fait qu'il y a besoin d'aller beaucoup plus loin sur la tarification du carbone, le prix du carbone aujourd'hui est insuffisant, et les consommateurs n'ont pas les signaux de prix qui leur permettent de réorienter massivement leur consommation.
Mais on n'est pas sorti de l'ère de l'hyper-consommation.
Il y a un problème. Enfin, il y a la question. C'est pas tellement la question de l'hyperconsommation, c'est la question surtout de quel type de consommation. Il y a chez certains une demande de consommer plus vert, mais il n'y a pas les outils qui permettent d'opérer ces changements dans les modes de consommation. Et ces outils, ils n'existent pas parce que aujourd'hui, le carbone ne coûte pas cher. Quand le carbone coûtera cher, les consommateurs auront directement un signal prix qui leur permettra de réorienter leur consommation.
Et quand on augmente, on fait la crise des gilets jaunes. C'est ça le problème.
C'est un problème, et c'est un problème d'économie politique massif.
Oui, on l'a bien vu. À chaque fois qu'on a mis en place rapidement, par exemple, d'une grande entreprise française, LVMH, si on impose ces règles-là, elle risque d'avoir de très grands problèmes. C'est aujourd'hui l'une des premières entreprises au monde et elle vend du luxe, et elle vend du luxe partout dans le monde. Imposer justement une tarification carbonée, c'est une catastrophe pour une entreprise comme celle-là ou pas? Xavier Jaravel.
Non, je ne dirais pas ça comme ça. Je dirais qu'effectivement, il faut garder en tête, pour revenir à la question initiale de la décarbonation, de la croissance verte, il faut garder en tête le cap qui est l'économie décarbonée, la neutralité carbone à horizon 2050. C'est ce qu'on a en France, en Europe, d'autres pays sont un peu plus rapides que nous. Royaume-Uni dit 2040, la Chine un peu plus tard dit 2060, les États-Unis 2050. Et donc, en gros, les 10 années à venir, il va falloir faire le choix entre la croissance verte, l'innovation qui permet de faire la croissance sans les émissions carbone, et c'est ça ce que ça veut dire, la neutralité carbone, c'est zéro émission. La France est plutôt bien placée, notamment grâce à sa position prééminente sur les technologies du nucléaire. Il y a d'autres enjeux comme les énergies renouvelables.
Et le nucléaire revient, mais le débat, il n'est pas tranché en France.
Le débat n'est pas tranché, justement. Je pense que c'est vraiment le débat à trancher au cours des 10 prochaines années. Et la Trinité, c'est électrification, ça tout le monde est d'accord. Ensuite, produire de l'électricité décarbonée, ça peut être avec le nucléaire, ça peut être avec les énergies renouvelables, avec un peu des deux. Et après, vraisemblablement, il faut un troisième volet qui est les technologies dites de captage et de stockage du carbone, parce qu'il y a plein de processus industriels dans lesquels forcément on va émettre du carbone. Et l'enjeu, c'est bien neutralité carbone, ce qui veut dire zéro émission carbone. Et là-dedans, il faut effectivement, pour accompagner tout cela, protéger les industries, avoir un ajustement carbone aux frontières qui permet une compétition équitable. Et, mais c'est vraiment une logique de donnant-donnant, c'est-à-dire qu'au sein de l'Union européenne, on a des marchés d'émissions carbone. Et les pays qui ne l'ont pas encore sont soumis à un ajustement carbone. C'est dans cette dynamique globale et on peut espérer qu'il y ait précisément une course entre les États-Unis, entre la Chine et aussi avec l'Europe, à ceux qui vont être les premiers à trouver les grandes technologies de demain. Ça peut être l'hydrogène, le nucléaire, les énergies renouvelables.
Même pour faire fonctionner les supertankers qui portent les containers de la mondialisation, parce que ça, c'est aussi un phénomène qu'on observe aujourd'hui. Il manque, le monde manque de containers, on manque de supertankers pour transporter des marchandises d'un bout à l'autre de la planète. Dans Questions politiques aujourd'hui, deux invités, les lauréats 2020 et 2021 du prix du meilleur jeune économiste. Isabelle Méjean, elle est professeure à l'école polytechnique, et Xavier Jaravel, professeur à la London School of Economics.
France Inter, Ali Badou, question politique.
Nathalie Saint-Cricq.
Je voulais juste savoir par rapport à ce que vous dites sur une économie décarbonée, est-ce que ça veut dire qu'on peut continuer à avoir une vision de la croissance qui est la même que celle qu'on a eue depuis l'après-guerre, ou qu'il faut quand même admettre qu'on va rentrer dans une forme de décroissance si on veut s'en sortir? Première question. Et deuxièmement, est-ce que tout ce dont vous avez parlé peut se faire avec une espèce de forme d'égalité entre les personnes qui seront touchées, entre les pays? Et entre les...
Oui, entre les pays.
Entre les pays et entre les...
Les classes sociales les...
Bah, c'est-à-dire... est-ce que ça peut se faire de façon équitable au sein d'un pays, de manière à ce qu'il n'en ait pas certains qui puissent s'en sortir et d'autres qui aient plus de difficultés vu leur mode de vie et leur consommation?
Xavier Jaravel, et vous avez travaillé sur les inégalités.
Bah, écoutez, oui, juste pour sur la première partie de la question, la décroissance... Il y a déjà la croissance de la population mondiale. Ça, c'est un facteur de croissance. Il y a aussi la croissance des pays émergents. Quand vous êtes au Bangladesh, vous voulez électrifier, quelle que soit l'utilisation.
Oui.
C'est très important. Et donc, dans ce contexte-là, il me semble que l'enjeu principal, c'est plutôt, effectivement, de permettre la croissance, mais d'une manière qui soit décarbonée avec des émissions zéro. Et je sais que le débat n'est pas totalement tranché en France, mais voilà, il faut voir les arguments d'un côté comme de l'autre. Il y a des grands enjeux d'innovation qui ne sont pas résolus. Est-ce qu'on peut faire la croissance avec émissions zéro? Probablement, c'est un pari. Le vaccin était un pari. On a vu, on a investi dans plein de choses et finalement, ça s'est fait rapidement. Et donc, on peut faire ce pari et il y a beaucoup de choses qui sont lancées. Donc, je pense qu'il y a vraiment là un enjeu fort. Et à nouveau, la France est plutôt bien placée là-dessus. S'agissant de votre deuxième question sur le caractère équitable, effectivement, pour les ménages modestes, en proportion de leurs revenus, quelque chose comme une taxe carbone va les toucher davantage. Et donc, c'est très important. Et ce qui rend la chose particulièrement difficile, c'est que c'est pas que une question de décile de revenus, par exemple. Le décile inférieur serait le plus touché. Parce qu'au sein de ce décile de revenus, vous en avez beaucoup qui sont peu touchés. Et puis, dans les territoires ruraux, et bien, où on prend sa voiture pour aller travailler, là, on va être très touché. Et donc, si on fait un chèque énergie, quelque chose comme ça, difficile de compenser ceux qui en ont vraiment besoin. Et donc, ce qui me semble important, en fait, c'est de favoriser de manière plus directe la transition. Par exemple, l'achat d'un véhicule électrique qui soit subventionné de manière directe si vous êtes dans une certaine situation. Mais donc, en fait, la difficulté est vraiment là. C'est de pouvoir cibler.
Il faut faire de la dentelle.
Il faut faire de la dentelle. C'est comme la résilience, etc. Il faut faire de la dentelle pour bien cibler. Et on a plusieurs outils pour ça.
Karine Becker.
Alors, il y a un autre défi économique important qui est là à nos portes, hein, d'ores et déjà, il me semble, c'est l'impact de la crise démographique qui est en train de toucher l'Europe, qui commence même à affecter la France. Je voudrais savoir économiquement quelles en seront les conséquences. Est-ce qu'on arrive déjà à le mesurer? Est-ce que c'est effectivement, comme je le sous-entends, un défi important qui est à nos portes?
Isabelle Méjean.
Oui, c'est un défi majeur, et je l'ai mentionné tout à l'heure, hein, le régime dans lequel on est de très faible croissance, il est en partie dû au fait qu'on est dans une situation où il y a des comportements d'épargne massifs, et ces comportements d'épargne, ils viennent notamment du vieillissement des populations en Europe. On a eu ça depuis longtemps au Japon. Les États-Unis sont aussi touchés. Donc la démographie, c'est effectivement un enjeu très important, notamment parce que ça a un impact macroéconomique très fort. Donc on sait, il y a beaucoup de travaux sur ces questions, la manière dont le vieillissement de la population va finalement augmenter à l'échelle globale les stocks d'épargne et donc réduire la demande intérieure dans un certain nombre de pays, d'espaces, et notamment moi je pense que c'est un enjeu très très important pour la zone euro qui est un des défis majeurs auxquels il faut faire face très rapidement, parce que on a des exemples, il y a des précédents, on connaît la situation du Japon, c'est vraiment...
Mais faire face très rapidement, comment on fait ?
Pas la solution miracle. Donc il y a l'immigration et puis il y a aussi, pour vraiment sortir de ce problème qui est vraiment très macroéconomique, hein, il y a une nécessité de créer plus d'inflation en zone euro. Hein. On sait qu'on est dans des régimes d'inflation très très faibles. Et donc c'est pour ça que je mentionnais le cas des États-Unis. Ce que font les États-Unis très concrètement pour se sortir de cette situation, c'est d'investir massivement. Donc le plan de relance américain, c'est 13% du PIB. Le plan de relance européen, c'est moins de 1% du PIB. Et donc là, aux États-Unis, on a très bien vu, c'est très caractéristique, les débats entre économistes sont très vifs, parce qu'il y a eu un choix politique qui a été de relancer massivement, beaucoup plus que ce qui a été perdu pendant la crise, pour profiter de cette occasion et sortir finalement les États-Unis de ce risque de ce qu'on appelle la trappe à liquidité, très peu d'inflation, très peu de croissance. Et aujourd'hui, en Europe, ce n'est pas le choix qui a été fait. Il y a un plan de relance qui est à l'échelle historiquement massif, mais qui va avoir pour objet, disons, de corriger ce qui s'est passé pendant la crise. On ne va pas, grâce à ce plan de relance, relancer l'inflation de manière massive, ce qui est nécessaire pour finalement sortir de ce régime.
Et on sent un regret chez vous qu'au fond, l'Europe soit un peu à la traîne. C'est ce que vous êtes en train de dire, il faudrait y aller plus massivement. Et il ne faudrait pas avoir peur de l'inflation.
Je pense qu'il y a, en tout cas, c'est un peu plus éloigné de mes domaines de compétences, donc je ne veux pas non plus aller trop sur ces questions-là, mais j'ai l'impression que ma lecture, en tout cas, de ce que pensent les macroéconomistes en ce moment, c'est qu'effectivement, le plan de relance est très certainement insuffisant au regard de la situation macroéconomique. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de séparer, et c'est intéressant d'avoir une émission sur un peu les enjeux de moyen terme, c'est qu'il y a des enjeux de court terme, ça a été de sortir de la crise, et là, je pense que l'Europe a vraiment répondu présente, et c'était une très bonne chose, c'était pas donné hein, qu'on allait très rapidement sortir cette enveloppe de 750 milliards. Mais par contre, il y a un deuxième enjeu qui est l'enjeu plus de moyen terme, de sortir d'une situation de croissance très faible. Et ça, c'est pas du tout, disons, dans les objectifs du plan de relance.
Il n'y a pas les objectifs, effectivement, du plan Biden, par exemple, pour modifier les infrastructures, construire des ponts, des routes et que sais-je en Europe. Si l'on parle de la richesse, il était très frappant de voir il y a quelques jours la une du Financial Times qui disait la chose suivante. Plus de 5 millions de personnes sont devenues millionnaires malgré la pandémie. Plus de 5 millions de personnes. C'est une étude du Crédit Suisse, et c'est à l'échelle de la planète. Le nombre de personnes qui ont un patrimoine de plus de 50 millions de dollars, donc ce qui est énorme, a augmenté de plus de 25%. Bon, grâce à quoi? Comment est-ce qu'on a pu en arriver là?
Ben ça, c'est relié aux les marchés financiers que vous évoquiez tout à l'heure, tout simplement. À nouveau, je pense que si les marchés financiers ne perdurent pas à leur niveau élevé dans les mois qui viennent, ça pourrait s'inverser. Plus généralement, la crise a mis en exergue plusieurs types d'inégalités liées à l'éducation, liées à la pauvreté. Donc ça, c'est aussi un des défis pour l'après-crise. Qui peut être traité de différentes manières. Je mettrai en avant le rôle notamment de l'éducation. Peut-être qu'on y reviendra.
Oui, mais vous diriez que les inégalités explosent par le haut avec plus de riches ou par le bas avec davantage de pauvres?
Je pense que le débat est quand même beaucoup focalisé sur les très riches. Et en réalité, on voit aussi que dans cette crise, on a bien réalisé l'importance de la pauvreté, notamment chez les jeunes. Et on connaît le système français qui est en général généreux, mais qui pour les jeunes l'est moins. Et donc ça, c'est un des ajustements qui semble important à faire dans la phase de reprise et de sortie de crise. Donc je pense que la pauvreté, ce sera un sujet plus central.
Mais il faut les taxer un peu plus, les riches, ou pas? Parce que c'est la question pendante en ce moment. Et on parle beaucoup des États-Unis. Les États-Unis ont décidé de ponctionner un peu plus les grosses fortunes. Économiquement, vous en pensez quoi, vous? Vous l'encouragez ou pas?
Effectivement, ce qu'on voit, c'est que, en tout cas, pendant la crise, il y a eu des comportements d'épargne importants dans le haut de la distribution. Hein. Il y a eu des accumulations d'épargne pendant les différents confinements. Et cette épargne, elle est très inégalement répartie. Il y a eu des travaux du CAE sur ces questions-là. Donc, effectivement, s'il y a des réserves, là, il y a eu des réserves qui ont été faites dans le haut de la distribution. Et il n'y a pas de... En tout cas, il y a aucun argument économique contre le fait de taxer plus le haut de la distribution. Sur ces questions de haut et bas de la distribution, je pense que les travaux de Thomas Piketty et d'autres économistes ont bien montré que finalement, aujourd'hui, je pense qu'on connaît mieux, disons, les très très riches, parce qu'il y a eu un agenda de recherche très important, des beaucoup de travaux qui ont été faits pour mieux comprendre ces hauts de la distribution. On sait que le dernier décile est extrêmement hétérogène, donc on peut résumer le bas de la distribution par un décile, on ne peut pas résumer le haut de la distribution par des déciles, il faut aller dans le très pointu, et là-dessus, il y a beaucoup plus de choses qui ont été faites, qui ont permis de montrer qu'effectivement, les très très riches sont vraiment beaucoup plus riches que ce qu'on pensait quand on regarde simplement le haut de la distribution. Je sais pas si...
Est-ce que dans le monde de demain, la fiscalité reste l'outil important pour réduire les inégalités, ou est-ce qu'il y a d'autres mesures à prendre?
Oui, non, pour ma part, je mettrais plutôt l'accent en fait sur les questions d'éducation. D'ailleurs, si on s'interroge sur les leçons de la crise, ce qui s'est passé au cours de l'année écoulée, qu'est-ce qui devrait en ressortir? À titre personnel, je dirais que c'est pas les questions de résilience, pas la dette publique, mais plutôt les résultats de la France en mathématiques. Vous vous rappelez, on a eu les résultats en décembre d'une étude qui s'appelle
SKIMS. Qui sont dramatiques.
Et qui ont un écho médiatique qui est peut-être pas
à la mesure de la catastrophe que c'est.
Effectivement, le mot est peut-être pas trop fort. Et il faut regarder d'autres pays comme, par exemple, l'Allemagne, le Portugal, qui avaient eu des résultats un peu comme ça dans les années 2000. Ça a été vraiment un choc. Ils appellent ça d'ailleurs encore en Allemagne, pour eux, c'est le choc PISA. Et il y a eu ensuite tout un plan de réinvestissement dans l'éducation avec plus de moyens financiers, mais aussi une attention forte portée à la qualité de l'éducation. Et donc, je verrais plutôt ça, en fait, comme l'enjeu central, plus que la fiscalité. L'idée de dire, notamment dans un contexte taux d'intérêt très faible, où l'État peut s'endetter à faible coût, comment est-ce qu'on met ça au service de l'éducation, et notamment sur ces questions de performance en mathématiques, parce que l'innovation, elle se fait comme ça. Et surtout, je pense que ce sur quoi il faut bien insister, c'est que ce déclin en mathématiques, et plus généralement déclin éducatif, il n'a pas que trait au niveau moyen. On le voit aussi pour les élèves les plus performants. Si par exemple vous regardez, il y a des études d'un service statistique de l'éducation nationale qui s'appelle la DEPP. Mm-hmm. Et ils font une étude sur 30 ans. Et ils définissent par exemple des seuils. Ils regardaient en 87, au CM2, le seuil qui marquait les 10% supérieurs de performance. Eh bien, en 2017, il n'y a plus que 1% des élèves qui parviennent à être au-delà de ce seuil. Et donc, évidemment, quelque chose comme ça met beaucoup de temps. On pourrait se faire essayer la tendance, il faut se donner beaucoup de temps. Mais le plan de relance est aussi une opportunité pour faire ça. Pour l'instant, il n'y a pas de volet vraiment en tant que tel sur ça. Okay. Et donc, une stratégie d'innovation partout, ça passe aussi par donner les moyens à tous et préserver ses capacités.
Juste une toute petite question. Dans le rapport Tirole Blanchard qui a été évoqué tout à l'heure, on considère qu'une des principales sources d'inégalité, c'est les donations, c'est l'équivalent. Mm-hmm. C'est la différence au moment où on est, c'est-à-dire... qu'il y a des riches, qu'il y a des pauvres, et puis que ça, on trimballe, si j'ose dire, ça toute notre vie. Et ils préconisent notamment qu'on réforme, qu'une réforme de mécanisme des donations, c'est-à-dire, en gros, on taxe plus, notamment la possibilité de donner 100 000 euros tous les 15 ans, à ses enfants. Est-ce que vous pensez que c'est un bon chemin, en sachant que vous avez parlé beaucoup d'éducation, mais est-ce qu'il faut aussi corriger ces inégalités en utilisant cet outil fiscal?
Qui veut répondre? Xavier Jarabel?
Très rapidement sur ça. Le premier point, c'est que, la question, c'est comment est-ce qu'on met fin aux niches fiscales qui existent déjà, donc le système actuel a déjà des taux élevés, qui pourraient être peut-être plus élevés, mais en tout cas le problème central, c'est qu'ils ne sont pas vraiment appliqués. Et donc c'est à nouveau un sujet de dentelle où il faut aller dans le détail et voir comment est-ce qu'on peut changer ça. Et c'est d'ailleurs aussi une question plus largement sur l'imposition des hauts revenus, faire en sorte que les taux effectifs soient les taux réglementaires. Et ensuite, il y a la question que c'est un impôt qui est très impopulaire chez les Français. Je pense que parmi les économistes, c'est probablement en fait l'impôt le plus populaire, parce que c'est une question d'égalité des chances, de remise à plat. On peut utiliser l'argent récolté pour le mettre dans l'éducation, par exemple. Et c'est très impopulaire chez les Français. Et donc là, peut-être qu'il faut insister sur le fait que ce serait un impôt très progressif, c'est-à-dire qu'il serait très élevé sur des montants très élevés. Donc peut-être que c'est pas 100 000 euros qu'il faudrait faire, peut-être que c'est 1 million d'euros, 5
millions. Mais vous considérez que ça peut être une piste et que c'est par là que ça peut passer?
C'est une piste importante parce que les revenus sont très concentrés, les revenus des donations. Mais à nouveau, je pense que ces sujets-là, ils sont sur le devant de la scène depuis longtemps, et donc c'est important, mais c'est plus des sujets en fait, je pense, de dentelle, de faire en sorte que le droit tel qu'il existe soit vraiment appliqué à la fois dans son esprit et pas que dans sa lettre.
Françoise,
vous parliez tout à l'heure de distribuer des aides dans la dentelle. Est-ce qu'on pourrait aller vers des politiques différenciées en fonction du territoire, parce qu'on voit aussi que beaucoup d'inégalités se creusent en fonction de l'endroit où vous habitez, des moyens de communication que vous avez ou pas? Est-ce qu'il faut revoir, au fond, le fonctionnement de l'État-providence?
Je pense qu'il y a déjà beaucoup d'éléments de la fiscalité qui sont locaux. Hein, donc il y a déjà de la différenciation selon les territoires. Mais effectivement, ce qu'on voit dans les données, ce qui est bien documenté, c'est le fait que non seulement il y a des inégalités spatiales, notamment par exemple en termes de taux de chômage, mais c'est aussi des inégalités qui sont très persistantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les endroits où il y a beaucoup de chômage, c'est les mêmes qu'il y a 20 ans. Donc il y a vraiment très peu de mobilité spatiale des individus. Et du coup, les mêmes territoires restent pauvres pendant très longtemps, ce qui est une catastrophe, évidemment, hein, parce que ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont élevés dans des familles avec du chômage, et donc ça va avoir un impact ensuite potentiellement sur l'éducation, sur... Donc il y a vraiment un effet de reproduction, finalement, de ces inégalités dans la dimension spatiale. Donc aujourd'hui, les aides sont en partie différenciées. Hein, évidemment, on a le fait que la redistribution se fait... la redistribution est beaucoup hétérogène, disons, selon les territoires. Il y a des territoires qui bénéficient beaucoup plus de l'aide sociale parce qu'il y a beaucoup plus de pauvres, et c'est normal. Ensuite, est-ce qu'il faut faire plus ? Je pense que ce sur quoi... Et clairement, il faut faire plus, c'est préparer finalement les inégalités de la transition écologique, ça a été déjà dit. Les territoires sont très hétérogènes en termes d'accès aux services publics, d'accès à des grandes villes, d'accès aux infrastructures de transport. Et donc ça, c'est des choses qui sont très observables. Hein. C'est la dentelle, c'est compliqué parce que souvent, on n'a pas finalement de choses observables, objectifs sur lesquels mettre en place les mécanismes de redistribution. Là-dessus, sur ces questions-là, c'est très observable. Et donc, on peut tout à fait différencier, disons, la redistribution et notamment ce qui va aider finalement et amortir le coût de la transition écologique pour des individus qui sont aujourd'hui amenés à payer plus pour cette transition écologique.
Pourquoi parler de dentelle ? Vous avez vu le dernier rapport du GIEC, il décrit en détail tout ce qui nous attend et il est proprement effrayant, la famine, la pénurie d'eau, les exodes massifs, les pandémies et puis éventuellement même la disparition des êtres humains. C'est un rapport qui est sans doute de tous les rapports du GIEC le plus radical et sauf à choisir de faire comme pendant la pandémie, c'est-à-dire tout débrancher, revenir à une économie à l'arrêt. Comment faire pour prendre en charge ces indications ? La prochaine COP, elle aura lieu en novembre à Glasgow, mais 2,5 milliards de personnes touchées par le manque d'eau, des centaines de millions par la faim et par l'exode. Bon, le GIEC, c'est pas une institution idéologique, elle fournit des données. Comment est-ce qu'on peut répondre à ça ? Est-ce que ça peut justement se gérer avec de la dentelle ou est-ce qu'il faut des changements complets de modèle ? Xavier Jaravel.
Non mais entendons-nous bien, la dentelle, ça veut pas dire la demi-mesure. Au contraire, c'est de dire... On prend la mesure de ces enjeux qui sont extrêmement importants et ensuite on se donne les moyens pour y répondre, ce qui requiert de passer par des mesures très précises qui vont dans le détail. Vous savez, on est un pays qui aime beaucoup la dépense publique. Faire des annonces de dépenses publiques, dire qu'on va dépenser tel...
Non mais il y a des questions mondiales. Si on regarde 2,5 milliards de personnes touchées par le manque d'eau, ce n'est pas une question nationale.
Ah oui, exactement. C'est une question mondiale, et donc la France joue son rôle là-dedans. Et donc nous, ce qu'on voulait dire, c'est juste que on définit une stratégie nationale bas carbone. Et, peut-être son ampleur, ce sera 30 milliards par an. Et ensuite, il faut évidemment allouer ces fonds d'une manière très précise, évaluer les dispositions. Donc c'est ça qu'on entendait par dentelle. Et ensuite, c'est effectivement un enjeu mondial, ce qui revient à la question de la décroissance. Il faut emporter tout le monde avec nous, y compris les pays en développement. Et donc c'est bien cet enjeu-là auquel on tente de répondre.
Mais donc du coup, est-ce qu'il y a un nouveau modèle écologico-économique à inventer ? Vous êtes la nouvelle génération d'économistes, vous avez 31 ans et 40 ans, vous êtes très jeune, est-ce que vous êtes en train d'essayer d'inventer quelque chose ?
Non mais évidemment, il faut quelque chose de complètement différent. Quand on parle de transition écologique, c'est un monde différent. La question, c'est de savoir si ce monde différent est finalement décroissant ou est-ce que on peut inventer un monde différent avec de la croissance.
Mais ça veut dire sortir du modèle capitaliste. Si on devient décroissant, non. Enfin, je veux dire, on peut pas accommoder les deux.
Non, mais voilà. Moi, je suis pas du tout partisane de la décroissance, notamment parce que on met beaucoup en avant le problème des inégalités. La décroissance, c'est un appauvrissement. Donc, les gens sont plus pauvres. Et dans un monde où il y a déjà beaucoup de pauvres, la décroissance, ça touche pas juste les riches. Ça n'existe pas. Donc, quand on produit moins, on a moins d'emplois et donc il y a moins de revenus qui sont générés. Donc, je pense que ce sur quoi, enfin, là où je suis pas d'accord, disons sur le, je pense que sur le diagnostic, tout le monde est d'accord. Sur les solutions, il y a un mode, il y a des modes de consommation qui sont plus écologiques, ça passe encore une fois par de la technologie, des modes de production qui sont plus verts, et ça passe aussi par des changements dans les consommations. Encore une fois, c'est très important d'opérer ces changements-là. Mais c'est là que, donc, il y a un enjeu qui est majeur et qui ne, on peut pas se permettre de rater le coche, finalement. Et donc, c'est vrai, quand on essaye de faire, par exemple, la taxation écologique, il y a les gilets jaunes et avant, il y avait les bonnets rouges. Mais moi, je pense qu'on ne peut pas se permettre de s'arrêter et de dire, bon, bah, tant pis, on ne fait pas, parce que là, aujourd'hui, on n'a pas le choix. Donc, il faut mettre en place ces instruments. Et donc, comme il y a des problèmes évidents associés à ces instruments en termes de redistribution, il faut aussi immédiatement mettre en place la redistribution qui va permettre une certaine forme d'acceptabilité de la réforme. Et la réforme, encore une fois, je réagis parce que il ne s'agit pas du tout de dire que ce n'est pas un enjeu et qu'on va faire du demi-mesure. Ce n'est pas vrai. Moi, je pense qu'il faut plus d'argent et il faut orienter très bien. Il faut que ça soit très clair que l'enjeu principal qu'on essaye de traiter, c'est celui de la transition écologique. C'est celui qui nécessite le plus d'argent. Et donc, c'est important de ne pas saupoudrer, de ne pas commencer à finalement redistribuer un peu partout. Il faut garder un objectif majeur, c'est la transition écologique. Ça passe par de l'innovation et ça passe aussi par des changements de comportement qui vont générer des inégalités. Et il ne s'agit pas de dire que les inégalités, on s'en fiche, mais il faut les prendre en compte dès le début dans un schéma global qui est celui de la transition écologique.
Mmh. Xavier Jarabel, vous vouliez compléter ?
Oui, peut-être juste en réponse à votre question, pour insister sur le fait que l'innovation, c'est toujours un processus qui est graduel, qui est collectif, qui est itératif. Vous prenez l'ARN messager, les vaccins, changement radical, mais changement radical qui est l'aboutissement, comme vous le savez, de dizaines d'années de recherche. Mmh. Et donc, quand on pense aux technologies vertes, c'est la même idée. La fusion nucléaire, par exemple, c'est un processus sur des dizaines d'années qui peut-être va aboutir. L'hydrogène, c'est plus nouveau, peut-être qu'il faut aussi investir dedans, mais donc il faut lancer toutes ces initiatives en parallèle. Et vous me demandiez une nouvelle idée. Moi, une nouvelle idée que je porte, c'est l'idée qu'on peut avoir à la fois plus de croissance et moins d'inégalités. Un levier, on pourra peut-être en parler une autre fois, c'est qu'il y a plein de gens ici en France et ailleurs qui ont toutes les aptitudes pour aller vers les métiers de l'innovation, la science, l'entrepreneuriat, et qui ne le font pas. Ils n'ont pas
parce
cette envie d'innover.
Ils ne le font pas, pourquoi ?
Parce qu'ils ne sont pas dans un écosystème d'innovation, pas dans un territoire, par exemple, qui les porte à même considérer que ce type de carrière est pour eux. Et ça, c'est un levier très important pour la croissance. Ce qu'on estime, c'est qu'on pourrait dépenser 100 millions par an pour avoir une politique nationale d'innovation par tous qui vise à mobiliser ces talents. Et ça rapporterait environ 5 milliards en croissance additionnelle chaque année. Ça paye déjà au moins un cinquième des investissements pour la stratégie nationale bas carbone. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire à court terme. Voyez.
Il reste très peu de temps, Françoise.
Pour compliquer le tout, il y a aussi le problème de la dette, une sorte de boulet. C'est-à-dire 120% de la richesse nationale d'ici à 2030 au moins. Est-ce que c'est un problème à prendre en compte ou on se dit au fond les taux d'intérêt sont bas donc c'est pas un sujet ?
C'est un problème à prendre en compte, mais il faut avoir une stratégie de chemin de crête, c'est-à-dire qu'il y a trois enjeux. Un, c'est de limiter les dépenses pérennes pour rester crédible face aux investisseurs qui nous prêtent. Et chaque année, on doit faire rouler la dette, donc réemprunter de l'ordre de 150 à 200 milliards chaque année sur les marchés. Deux, préparer la reprise et la croissance d'après-crise, dont les investissements en transition écologique. Donc ça, c'est l'aspect croissance potentielle à plus long terme. Et trois, bien soutenir la reprise vraiment maintenant pour pas avoir une perte d'activité qui reste pérenne.
Mais vous lisez donc, la presse économique, vous avez vu en une des échos la Chine, premier investisseur mondial en 2020.
Oui.
On en est loin, et devant le Japon, devant l'Allemagne.
C'est relié à ça aussi, effectivement, parce que la structure de la dette française, on a une moitié d'investisseurs étrangers. Et donc, tout est lié. Mais c'est-à-dire que la dette, en fait, à long terme, la France n'est pas si mal positionnée. Tout à l'heure, vous évoquiez les questions de population, croissance démographique. À très long terme, la France, avec sa fécondité qui reste élevée, est plutôt bien positionnée. La fécondité chute en France depuis 5 ans. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est en fait très important pour la croissance et pour la soutenabilité de la dette à long terme. Et à nouveau, l'éducation, c'est aussi un enjeu pour maintenir la croissance et donc la soutenabilité de la dette à long terme.
Mais pour rester crédible, la gestion de cette dette, elle se fait à travers les critères de Maastricht ou il faut les réécrire ces critères
On sait qu'ils vont être réécrits l'année prochaine. On sait que le retour à 60% ne sera plus à l'ordre du jour. Et en revanche, les convergences du type critères de 3%, vraisemblablement quelque chose de cet ordre restera, mais peut-être qu'il y aura des adaptations du style, certains types de dettes seraient hors schéma, par exemple les investissements transition écologique ou éducation ou autre.
D'un mot, Nathalie ?
Non, je veux juste savoir, vous vous projetez dans 30 ans, 40 ans, on travaillera plus, on travaillera moins ? ou on travaillera différemment ?
On travaillera mieux.
C'est quasiment une réponse d'homme politique.
Exactement.
Oui. J'espère Isabelle qu'on Maison. Travaillera plus. Hein. Il y a quand même un problème de chômage en France. Non,
mais sur le mode de vie, est-ce que c'est l'avenir de... C'est toujours le
même.
Non,
mais quand on travaille plus, quand il y a moins de chômage, hein, on travaille et plus globalement et on s'enrichit aussi.
Travailler plus pour gagner plus.
Voilà, ça devient complètement politique.
Bon, il fallait toucher la ligne. Merci en tout cas à tous les deux, Isabelle Méjean et Xavier Jaravel. C'était passionnant. Merci à toutes les trois. C'est la fin de l'émission. Merci au meilleur des Alex, les Alexandra Gilardi, Alexandre Gilardi et l'équipe technique de Question Paul. Et merci de nous avoir été fidèles tout au long de cette saison. Passez un bel été.